nous tenons nos bras, notre Dieu, toi qui rassembles ton peuple, pour que tu puisses lui parler. Maintenant, nous sommes prêts à t'écouter, notre Dieu. Parle-nous au travers de ton serviteur que tu t'es choisi. Fais que, par ton Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, tu parles au travers de ton serviteur. Et que tu parles de tout et chacun, prêt à t'écouter. Nous avons besoin, Seigneur, de toi et de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.
Alléluia. Amen, amen.
Amen.
Amen,
amen.
Nous rendons grâce à notre Seigneur qui vient nous accorder ce moment qui est propice pour encore une fois l'écouter. Parce que quand il rassemble ses enfants, il a toujours une parole à leur communiquer. Cette parole que nous voulons méditer, nous la trouvons dans les Actes des Apôtres. Vous savez bien qu'il n'y a pas longtemps que nous étions rentrés dans la dynamique de la Pentecôte et nous voulons aussi être attentifs par rapport à ce que l'Esprit a fait dans le chef des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, la lecture va commencer à partir du 23e verset et nous allons aller jusqu'à, oui, pratiquement, à la fin de ce chapitre. Donc au verset 37, que je vais lire au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et le peuple ont-ils eu de vaines pensées? Le roi de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait déterminé d'avance. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole à toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise quoi? Quoi? Quoi d'autre? Par le nom de ton saint serviteur qui? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent quoi? Avec la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que le bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tout ce qui possédait les champs ou des maisons les vendait et apportait le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposait au pied de qui? Et le distribuait à chacun selon il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite et originaire d'où, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa où c'est. Parole du Seigneur. La présence des dieux au milieu des disciples, doublement unanime. La présence des dieux au milieu de ses disciples, doublement unanime. Voilà le thème de notre méditation de ce matin. Et alors pour que nous puissions comprendre le texte que nous venons de lire, il nous faut nous replacer dans son contexte. Et le contexte remonte à partir du chapitre 3 des Actes des Apôtres, où il est question d'une habitude à laquelle les apôtres étaient attachés, notamment Pierre et Jean. La parole de Dieu nous dit qu'ils se rendaient au temple pour la prière, et il est écrit au verset 1er chapitre 3, « Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. » La 9e heure. Ils attachaient une importance très capitale aux réunions communautaires, les apôtres. Alors, pouvez-vous imaginer réaliser cela, apôtres, mais attachés à la vie communautaire. Mais il nous arrive d'accorder une moindre importance aux réunions communautaires dans la semaine. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Il nous arrive d'attacher moins d'importance aux réunions communautaires dans la semaine. Le lundi, la chapelle Goma West a déjà prévu quoi comme activité? C'est l'île. Le mardi? Le mercredi? Le jeudi? Le vendredi? Le samedi? Voilà mon avis. Vous avez tous les programmes dans la tête. Et alors, la réalisation. Je dis bien qu'il nous arrive d'accorder une moindre importance aux réunions communautaires. Et nombreux sont de nos frères et sœurs qui ne donnent de l'importance qu'au culte dominical, comme c'est dimanche. Et je dois rappeler que cela n'est pas une bonne habitude. Les apôtres accordaient une valeur prépondérante aux bonnes habitudes. Et Dieu nous appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, à nous exercer aux bonnes habitudes. Et la parole de Dieu met l'accent particulier sur les réunions communautaires. Et même en hébreu, l'auteur nous dit, il ne faudrait pas louper aucune des assemblées. Voilà que les apôtres étaient déjà attachés à ça. Ils avaient accordé, oui, une valeur très importante aux réunions de prière. Mes frères et sœurs, nous devons revenir à nos pas et à rapport avec tous les programmes que nous voulons suivre dans notre chapelle. Le lundi, on ne te voit pas aux réunions de quartier. Le mardi, parce que tu n'es pas une maman, tu fais la grâce matinée. Le mercredi, on ne te voit pas au séminaire. Le jeudi, non pas à l'étude publique, et ainsi de suite. Mais finalement, tu es où? Voilà la question qu'il faudrait que chacun et chacune se pose. Où est-ce que tu pars brouter? Tu vas brouter une mauvaise herbe qui te fera mal à l'estomac. Et c'est là qu'on risque d'être emporté par n'importe quoi et par n'importe quel vent. Le Seigneur nous rappelle encore que nous puissions réfléchir davantage sur cet aspect. Et voilà que, alors que Pierre et Jean se rendaient au temple, ils vont rencontrer à la porte un infirme de naissance. Et la parole de Dieu nous dit que cet infirme de naissance avait une quarantaine d'années. Et chaque jour, on devait venir le déposer à la porte pour que cet infirme fasse ou bien demande de l'aumône ou fasse la quête. Mais alors, ce qui est merveilleux dans le passage, c'est que l'infirme va recevoir au-delà de ce qu'il demande. Il va recevoir au-delà de toute attente. Parce qu'il savait bien que oui, il est né infirme. Et voilà que ce qu'il va faire, c'est juste continuer à faire la manche pour demander l'aumône. Et alors, le Seigneur s'est souvenu de cet infirme. Il a été au bénéfice d'une guérison instantanée au nom de qui ? De Jésus. Et par la puissance de l'Esprit dans la vie de Pierre. Au nom de Jésus. Ce nom, il est merveilleux, je vous assure. Et quand il faut prononcer ce nom-là, ce n'est pas une interjection, c'est un nom puissant par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. La guérison de l'infirme. Et c'est cette guérison-là qui va provoquer tous les déclics que nous allons voir par la suite. La guérison de l'infirme. Et la guérison de l'infirme, d'abord, n'a pas laissé la foule indifférente. Et la foule a été étonnée de voir un marginalisé de la société, un paria de la société, c'est joindre à la communauté de vie. Alléluia. Un marginalisé, c'est lui qu'on devait déposer à la porte. C'est lui qui était là juste pour faire la manche. C'est lui qui était là pour demander l'aumône. Voilà qu'il va être intégré dans la communauté de vie, dans la communauté chrétienne. C'est Jésus et le nom de Jésus qui est capable qu'on ait été redonné ton identité. Alléluia. Chacun et nous tous, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et alors, comment nous exprimons notre reconnaissance par rapport à cette grâce? Quand cette grâce nous tombe dessus, et cette grâce nous libère de toutes nos infirmités, et ces infirmités qui nous empêchent d'aller de l'avant dans notre vie avec lui, qui nous empêchent et qui nous paralysent. Et quand ça nous paralyse, ces infirmités, ça nous empêche vraiment d'évoluer normalement. Ça peut être quoi? Ça peut être la peur. Ça peut être l'angoisse anonyme qui provoque en toi des stress et quelque chose d'autre. Ça te paralyse. Et tu es comme cet infirme. Et tu viens là, à l'église, mais comme si tu es assis à l'extérieur. Et que ce matin, ma prière, c'est que Jésus te rencontre dans ton abattement. Que Jésus te rencontre dans l'épreuve de l'infirmité par laquelle tu passes. Et ce matin, nous devons reconnaître et continuer à confesser cette parole que Jésus-Christ avait dite dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Que tout pouvoir m'a été donné. Où c'est ? Depuis les cieux sur la terre et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus a le pouvoir de te guérir. Jésus a le pouvoir de guérir ton infirmité pour te donner la force et la vraie vie. Dieu veut que tu vives une vie épanouie en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut te donner la force par rapport à ces infirmités qui te paralysent. Il veut opérer en toi, comme il veut opérer en moi, des délivrances insoupçonnées pour que mon abattement et ton abattement soient humanisés. Et que cet abattement ne soit pas considéré comme étant la fin et la fin de toutes choses. C'est Dieu, Jésus-Christ, qui est la fin de toutes choses. Et c'est son nom qui peut te faire sortir quand tu le confesses dans ta vie. Et alors, face à la foule, étonné par cette guérison spectaculaire, Pierre va prendre la parole pour révéler l'auteur du miracle et annoncer l'évangile. Et ce qui est intéressant à constater dans ce passage, c'est de voir que Pierre va rejeter la paternité du miracle. Il ne va pas s'approprier ce miracle-là, mais il va l'attribuer à qui ? À Jésus. Il y a eu des fois que nous confisquons le miracle, pendant que ce n'est pas nous qui aurions opéré le miracle. C'est Dieu et Dieu seul à Jésus-Christ qui est capable d'opérer le miracle. Et allez-y voir maintenant les autres communautés et des gens qui s'appellent les archis, tous les archis possibles. On veut toujours archi, c'est qui est au-dessus. Archi, apôtre, archi, bishop, archi, pasteur, archi, batteur, archi, président. Wow. Qu'est-ce que c'est? On veut confisquer ce qui appartient à Dieu. C'est à Dieu seul la gloire, le bien-aimé dans le Seigneur. Et Pierre a transféré la gloire à celui à qui cette gloire revient. Et donc, quelle que soit la qualité de ce que vous pouvez poser comme acte, vous devez apprendre, et je dois apprendre, à attribuer le mérite au Seigneur, à lui et à lui seul. À lui et à lui seul. C'est que l'attention doit être transférée, mais bien aimée dans le Seigneur. Et alors que Pierre poursuivait sa puissante prédication, à la suite de la guérison de l'infirme de naissance, et alors les leaders religieux vont mettre la main sur lui et sur Jean. Les leaders religieux vont comploter pour mettre la main sur ces deux apôtres. Convaincus que l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ bouleverse les logiques humaines, et libère l'homme ou l'être humain malgré les oppositions, et loin d'être intimidé par leur emprisonnement, mais les apôtres y trouvent plutôt une occasion favorable pour annoncer le message du salut en Jésus-Christ seul. Ils ont saisi la balle au bond, comme disent les Français. Ils en ont profité pour annoncer le message du salut en Jésus-Christ seul. Et même devant le Sanhédrin, devant les responsables religieux, devant le leader juif, et avec tout le courage que leur a donné l'Esprit de Dieu, Pierre va dire oui, et c'est Pierre qui le dit, oui, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il est l'auteur de la foi. Ça, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 12, qui nous dit « Il est l'auteur de la foi et c'est lui qui mène cette foi jusqu'à la perfection. » Alléluia. Cette foi qui a commencé à toi, c'est le Seigneur lui-même qui a suscité cette foi à toi et c'est lui seul qui va la mener jusqu'à la perfection. Et les Sanhédrin étaient là, abasourdis, ne sachant plus quoi faire. Le Sanhédrin était surpris. Le Sanhédrin ne savait plus quoi dire. Le Sanhédrin était surpris de voir à que Pierre et Jean s'exprimaient dans une confiance totale. Ils parlaient au Sanhédrin avec une confiance totale. Je ne sais pas si à Swahili on pouvait dire quoi. Je ne vais pas dire que c'est je ne trouve pas. Oui, mais il parlait au Sanhédrin, au chef religieux, avec une assurance forte. Mais c'est parce que l'Esprit était là. Alléluia. L'Esprit était là. Et pourtant, vous savez bien que ce sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et si je posais la question à notre pasteur, on les appelle comment en grec? C'est un mot qui est bizarre. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, et ils n'étaient capables que de compter le nombre de poissons qu'ils attrapaient la nuit au bord du lac de Génézareth. Et des gens qui avaient une humanité assez drôle, quoi. Parce qu'on les reconnaissait comme étant d'abord des Galiléens et des pêcheurs galiléens. Ils étaient déjà indexés. Et alors les responsables religieux, quand ils les voyaient, ils se disaient, mais on a affaire à qui là? On a affaire à qui? À ces pauvres gens? Mais alors, ils étaient confus devant la puissance de la parole qui sortait de la bouche de Pierre et des gens. Alléluia. L'Esprit en vous, vous allez sortir des paroles de bénédiction qui confond le monde entier. Et alors, ils seront avertis et ils seront relâchés par la suite. Et aussitôt relâchés, Pierre et Jean vont trouver leurs condisciples et vont aller là où se trouve le leur. C'est là que ce que nous avons lu au chapitre 4. Ils vont les trouver pour leur faire part des interdictions et de menaces qui avaient été proférées par les leaders juifs dans tous les Sanhédrins. Ils se sont sentis redevables vis-à-vis de leurs condisciples. Et ils ont donné rapport. Pas le rapport de responsable du trafic routier, mais ils ont donné rapport par rapport à quoi? À ce que le Seigneur a fait. Et alors, à l'unanimité, c'était ça, la thématique de notre méditation. La présence de Dieu au milieu de disciples, doublement unanime. J'ai dit bien, doublement unanime. Et alors, à l'unanimité, ils vont réagir de deux manières, parce que c'est doublement unanime. Ils vont réagir de deux manières. La première manière par laquelle ils ont réagi, c'était quoi? C'était par la prière. C'était par la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je lisais la prière que nous trouvons dans Actes des Apôtres, c'est à partir du verset 29, je me suis dit, il y a des prières et prières. Et quand je lisais cette prière, j'ai découvert beaucoup de choses qui se sont installées en moi comme des bénédictions. Je disais donc qu'il y a prières et prières. Il y a des prières qui sont source de bénédictions. Et quand tu écoutes quelqu'un prier, tu te dis, waouh, c'est quoi ça? Parce que la prière reflète en quoi? Notre degré de confiance, notre degré d'attachement à Dieu et à Jésus-Christ à qui est capable de faire des prodiges. Alléluia. La prière que nous prononçons devant Dieu et devant son peuple traduit cette confiance-là, traduit notre degré d'attachement à celui qui est capable de faire des miracles. Et dans cette prière, ce qui se dégage, c'est que les apôtres et les condisciples et les autres disciples, ils ont confessé d'abord à que Dieu était le créateur de quoi? De toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est celui qui est supérieur par rapport à tout ce qui existe, même devant les Sanhédrins. Même tout, devant tous ces archis, il est souverainement élevé. Il trône, il siège, parce qu'il est souverainement élevé. Nous n'avons pas à les confondre avec la créature. Et les apôtres, quand ils priaient, ils voulaient d'abord exalter celui qui est souverainement élevé. Celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est, oui, qui est plus grand que, oui, que ceux qui s'opposent à la propagation de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous rappeler une chose, que quand nous confessons que Dieu est le créateur de toutes choses, nous voulons dire que le reste est relatif. Même si tu vois quelqu'un avec une stature comme celle de Goliath, il faut le regarder dans le blanc de l'œil et dire qu'au-dessus de celui-là, il y a Dieu qui règne. Alléluia. Il y a Dieu qui trône. Même devant les responsables religieux et les responsables politiques, les gens qui ont la taille de Obama, président des États-Unis, il a été, mais nous devons savoir qu'au-dessus des États-Unis, il y a Dieu qui règne. Il y a Dieu qui trône. Il est souverainement élevé. Et donc le reste doit être relatif. Il n'y a rien dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui peut égaler notre Dieu. Il vit à jamais. Il est plus puissant que les oppresseurs des apôtres. Il est plus puissant que ce qui nous stresse à chaque fois dans notre existence. Que ce soit les peurs qui sont là, que ce soit les responsables politiques, et moi j'en ai aussi des responsables politiques qui nous stressent, quel que soit leur degré de nuisance. Et Jean a dit, celui qui est à moi est comment ? Est plus fort que celui qui est poussé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons alors compter sur son secours à toutes les fois que nous sommes en difficulté. Et alors, au lieu de demander à Dieu de faire cesser et de diminuer la persécution dont ils sont victimes, mais la communauté réunie, le bien-aimé, la communauté réunie sous la présence de Dieu, et à l'unanimité, la communauté en question a demandé trois choses. Elle a demandé trois choses que vous pouvez découvrir au verset 30 et au verset 31. La première chose, c'est qu'ils ne se sont pas rabattus sur eux-mêmes. Ils n'ont pas regardé la difficulté et les menaces. Mais ils se sont dit non. On sait bien que les menaces existent. Et ils ont dit, Dieu, tu sais que tout ça, ça existe. Si c'était toi ou moi, je ne sais pas ce que serait la nature de la prière. J'ai demandé trois choses. La première des choses, que Dieu manifeste sa puissance en faisant quoi ? En étendant sa main. En étendant sa main. Mokono wa mungu ni mokono wa woko. Alléluia. Wakati la nyosha mokono wa kichu yako. Sema neema ni kushuki. Quand il est dans sa main, c'est que la grâce est déversée sur toi. Parce que la main de Dieu, elle est une main bénissante, elle est une main de réconfort et elle est capable même d'empêcher le pire et que ces pires-là ne puissent nous arriver. Deuxième chose qui est évoquée dans la prière, c'est que la présence du Saint-Esprit soit manifeste. Par quoi ? Par des guérisons. Et par quoi encore ? Des signes. Et par quoi encore ? Des prodiges. Et cela par le nom de Jésus. Troisième chose, c'est que Dieu donne aux disciples quoi ? Ça c'est au verset 31. Qu'il donne aux disciples la force de poursuivre la mission, c'est-à-dire faire quoi ? Annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a une grande leçon à tirer de cette approche de la prière. Une grande leçon à tirer, mes chers frères et sœurs. Et Jacques, l'apôtre Jacques le dit dans son épître, au chapitre 5, verset 16b, il dit ceci. La prière des saints, faite dans l'union, a une grande efficacité. La prière des saints, qui est faite dans l'union a une grande efficacité. Vous allez vous rappeler de ce que nous avons connu dans la CBK quand il s'agissait d'installer les nouveaux mandataires. Quelle a été notre réaction dans la prière? Oh là là. Ah, c'était lourd à porter. Hein? Et quand on nous avait dit que Kabila va être là, ah, ça nous a créé la chair de poule. Et on ne savait plus, et moi-même, je me souviens que j'étais là à côté, on m'avait demandé de prier. Ah non, ça m'a créé des frissons dans le dos, quoi. Et je me disais, mais cet homme, au cas où il est arrivé, et moi, comme président de l'Assemblée, comment je vais le regarder? Et qu'est-ce que je dois dire? Même prier, il faut ramasser les mots. Parce que ça va être sans beaucoup d'assurance. Vous avez compris combien que nous étions dans le stress. Et nous étions au comité exécutif de deux jours, de trois jours. Chaque soir, il fallait faire le point de la journée. Et on était attaqué de tous côtés par des tracts. Et chaque jour, il fallait faire le point. Bon, on a encore attrapé les tracts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Dieu nous a sauvés. Et nous disons gloire au Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que Jacques nous donne la clé. C'est que la prière de saint faite à l'unanimité reste d'une efficacité insoupçonnée. Je parlais, n'est-ce pas, de l'unanimité, oui, par laquelle les apôtres ont réagi contre l'opposition qu'ils avaient rencontrée. Et alors, la deuxième manière de réagir, c'est par là que je vais terminer pendant les quelques instants qui sont devant moi. La deuxième manière de réagir, c'était par la communion fraternelle. Et ce que nous trouvons à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. En fait, tous ces versets nous révèlent ce qui faisait la force à l'église primitive. C'est que certes, ils avaient placé, oui, les chrétiens avaient placé leur confiance en Jésus-Christ, leur foi commune en Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, ils ont manifesté quelque chose de très important. C'est l'amour réciproque. Et cet amour réciproque qui était manifesté à travers la prise en charge de besoins primordiaux de chaque membre de la communauté. C'est de cette manière-là qu'ils traduisaient l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ils ont constitué une église qui était en bonne santé spirituelle. Une église comme Goma Ouest, qui se veut une église qui est comment? Rayonnante. Et c'est ce que nous souhaiterions de l'église Goma Ouest. Mais de ce côté-là, je peux se dire, et là, c'est avec conviction que je l'ai dit, que nous sommes sur de bons rails. Alors, cette solidarité observée chez les premiers chrétiens n'était pas un communisme qui a été inventé par Karl Marx. Oui, je me suis intéressé aussi par la philosophie. Et dans ce communisme où il n'y avait pas de propriété individuelle, et que le principe de ce communisme était quoi? Ce qui est à toi est à moi. Mais il s'agit d'une autre rationalité. C'est que chez Karl Marx, le communisme en question, tout appartenait à quoi? À la collectivité. Mais ici, c'est la manifestation, je venais de le dire, de l'amour qui dit ceci. Ce qui est à moi est à toi. Pas ce qui est à toi est à moi, mais ce qui est à moi est à toi. Ce que je suis capable de partager avec toi à ce qui est à moi. Et alors, les constats qui se dégagent aujourd'hui, et que beaucoup cherchent à recevoir des biens des autres à partage, mais n'ont partagé le leur avec les autres. Allez-y voir, dans beaucoup de communautés qui se disent chrétiennes, vous déposez tout à qui? Au pied de l'apôtre. Et l'archi-apôtre. Et c'est lui qui est tout. Hein? Il est le pasteur, il est le révérend de l'église. Il est l'ancien de l'église, donc le collège d'anciens, c'est lui. Il est la diaconie de l'église. Et il est tout, et vous déposez tout à ses pieds. Est-ce que nous voyons ça ici? Tout ce qui était déposé aux pieds des apôtres était redistribué selon le besoin de qui? De chaque membre de la communauté. Et l'exemple qui nous est donné par ici, c'est l'exemple de Joseph, surnommé Barnabas, et qui est appelé le fils de l'exhortation. Et Barnabas veut nous exhorter ce matin, mes bien-aimés. Barnabas, qui est le fils de l'exhortation, nous exhorte ce matin. Barnabas n'a pas hésité à exhorter aussi la communauté chrétienne de son époque, l'église primitive. Il a apporté, il a vendu son champ et il a apporté les produits de la vente à qui? Au pied des apôtres. Le Seigneur nous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à nous laisser, ou bien, à laisser l'Esprit nous conduire pour que nous soyons à mesure d'édifier l'Église par des réactions à comme celle des apôtres unis dans la prière et comme celle de qui? De Barnabas, qui a déposé pour qu'il y ait satisfaction de besoin de chaque membre à l'Église. Nous sommes appelés à la suite des apôtres et de Barnabas de nous inscrire à cette école qui nous renvoie la réaction. Et que quand il faut réagir vis-à-vis de quelque chose, il faut que ça soit dans l'unanimité ou c'est dans la prière. Et que nous puissions réagir aussi vis-à-vis de besoins de la communauté par notre implication à édifier la communauté par les dons et les libéralités que nous pouvons apporter. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre vie.
Prions le Seigneur, nous te bénissons notre Dieu et notre Père, parce que c'est avec l'objectif que tu as réveillé chacun de nous et tu l'as protégé.